Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Si l'univers est beau, si le ciel fascine depuis toujours les hommes des quatre coins du monde, peut-on dire sincèrement que nous soyons seuls? Aucun chercheur peut affirmer que la Terre est la seule planète habitée. De l'autre côté, personne ne peut dire quelle autre planète l'est habitée. C'est bien pour cela que le dossier OVNI revient très souvent dans cette émission. Et c'est pour ça que je reçois ce soir Gérard Desforges. Bonsoir Gérard.
Bonsoir à vous et à vos auditeurs.
Investigateur dans le domaine des enquêtes ufologiques, on va évoquer vos recherches ufologiques et on va partir de ce postulat de départ. On va se dire que, en fait, l'ufologie n'est valable qu'à partir de témoignages. Et on va justement évoquer l'importance des témoignages, Gérard. Vous y attachez beaucoup d'importance.
C'est plus que beaucoup, c'est essentiel, parce que si les témoignages ne sont pas recueillis, et ça depuis des dizaines et des centaines d'années d'ailleurs, ça se fait, comment pourrait-on parler d'ufologie, puisque c'est le seul terrain d'expérience sur lequel la science peut se déterminer, peut essayer d'imaginer des théories pour expliquer des phénomènes auxquels sont confrontés beaucoup de nos concitoyens, moi aussi d'ailleurs, comme tout le monde.
Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant également et qui à mon avis contribue au fait que beaucoup de gens qui s'intéressent aux ovnis sont énervés, c'est qu'aux quatre coins du monde, on a des millions de témoignages, souvent identiques, souvent ce qui pour moi est une preuve de véracité, parce que la répétition des témoignages est, apporte souvent de la vérité dans le propos. Et pourquoi, encore une fois, c'est un peu mis à l'écart, relégué au nom d'une pseudo-science, l'ufologie?
J'irais même plus loin, je dirais que partout où il y a des gens pour recueillir des témoignages, ces témoignages pleuvent.
Ouais.
Et là où il n'y a pas, d'enquêteurs, de personnes, parce qu'il y en a, ils sont pas si nombreux que ça, les gens qui recueillent ce genre de témoignages. Mais par contre, il y a autant de témoignages là où il y a un désert au niveau enquêteur qu'ailleurs. Par exemple, j'ai un ami qui a une maison en Creuse, et j'ai pu constater qu'il y avait un petit livret qui était paru là-bas, qui recensait des cas dont personne n'a parlé, et il y en a des dizaines.
Ouais.
Bon, je crois que c'est partout pareil en France. Et donc, de par le monde, c'est la même chose.
Parce que hier, par exemple, on avait Thierry Bégon qui nous disait que sa région était souvent survolée par des objets volants non identifiés, en tout cas que lui a identifié, mais qui sont pour l'armée ou le GEPAN non identifiés. Et encore une fois, on a la sensation que son ciel est survolé, il arrive même à rentrer en contact avec, il fait des signaux, etc. Il y a quelque chose qui se passe, et encore une fois, on n'en entend jamais parler, j'ai jamais eu un journal de 20 heures, j'ai jamais vu une émission de radio en parler.
Oui, parce que le phénomène est très malin, il est fuyasse, il est insaisissable, et ça dérange les autorités. Toutes les personnes de pouvoir, que ce soit au niveau politique, médiatique, n'aiment pas rencontrer des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils n'en parlent pas.
Mais pourquoi malin se fait? Est-ce que...
Parce que c'est un caméléon, il se présente sous mille facettes et il demeure insaisissable. C'est là. Alors pourquoi? Je n'en sais absolument rien, mais il est clair qu'il joue à cache-cache et qu'il nous connaît bien de toute façon.
Gérard Desforges, je marque une pause de pub. On revient dans une poignée de secondes. De toute façon, ne zappez pas, car il y a qu'ici qu'il se dit des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs. Tous les soirs, 21h minuit, vous m'écoutez une fois, vous m'écoutez mille fois. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité.
Tous les soirs sur Ado. Pas de foot.
Pas de cul.
Mais toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis bien trop longtemps.
Bob est sur Ado. 21h minuit.
Donc, Dorénavant, je vous parle tous les soirs du côté obscur de la vie et de notre société. Depuis toujours, on nous cache des choses, on les oublie volontairement, on n'ose pas en parler, on fait taire des gens qui dérangent. Tous ces secrets, si l'on dit, je les mets sur la table tous les soirs de 21h à minuit. D'ailleurs, demain, dès demain matin vers 7h30, 8h, on postera, tiens, pour le petit-déj, une vidéo assez incroyable. Je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a à peu près 3 semaines, on avait reçu Ben Halima, qui est un imam exorciste, qui était venu avec un capteur de djinn, qui sont des entités que les musulmans connaissent bien. Si jamais vous voulez voir cette vidéo, on la postera demain matin. Ce sera du côté de 7h30, 8h. Vous serez surpris, croyez-le bien.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Gérard Desforges, investigateur dans le domaine des enquêtes ufologiques, est avec nous pour parler bien sûr de ce dossier OVNI. Vous savez, Gérard, hier j'ai annoncé, d'ailleurs ça a été repris aujourd'hui partout, que la NASA avait annoncé grâce à la sonde Curiosity que la vie biologique, microbiologique, aurait pu être probable il y a 3 milliards d'années sur la planète Mars. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, on a entendu beaucoup de chercheurs évoquer de plus en plus les exoplanètes. Est-ce qu'on peut imaginer que tout cela va les amener petit à petit, les autorités compétentes, à une divulgation ?
Écoutez, je n'en sais absolument rien. Par contre, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose à propos duquel je voulais faire, une petite entrée qui ne concerne pas directement les ovnis, mais vous savez, les anciens apportaient souvent une grande attention aux signes. Ouais. Alors je voudrais quand même apporter un petit éclairage sur la date d'aujourd'hui et même celle d'hier, à propos de ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Ouais. 13 mars, élection du pape, et paraît-il, c'est le 266e pape. Mmh. Or, nous sommes le 13 mars, donc 13-3. Mmh. Vous mettez 2 fois 1-3-3, ça fait 266.
D'accord.
Curieux, n'est-ce pas ?
Oui, curieux.
Bon, deuxièmement, vous avez aujourd'hui une comète qui s'appelle Pan-STARR et qui était aujourd'hui, je pense, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un ciel très dégagé, ce qui est rarement le cas dans nos régions, disons, c'était la comète la plus visible ce soir, à peu près une distance d'un million de kilomètres. Et juste sous le croissant de Lune qui, entre parenthèses, était noire hier. C'était le premier jour lunaire aujourd'hui. Donc c'est déjà assez intéressant, cette Pan-STARR. Alors, notons qu'il y aura une deuxième comète très très intéressante, qui s'appelle Ison, qui sera visible en fin d'année, qui risque d'être très brillante aussi. Bon, il y a ça. Et hier, donc, vous avez raison, hier, donc, jour de la Lune noire, nous avions une conférence de presse des responsables scientifiques de la NASA au niveau du programme Curiosity, et qui dit ceci: une question fondamentale à laquelle la mission Curiosity devait répondre était celle de savoir si Mars, selon une analyse des minéraux contenus dans le premier échantillon d'une roche effectué par des instruments du robot américain Curiosity, alors, une question fondamentale à laquelle la mission Curiosity devait répondre était celle de savoir si Mars pourrait avoir été propice à la vie. Sur la base de ce que nous savons maintenant, la réponse est affirmative, a déclaré lors d'une conférence de presse, donc, M. Michael Mayer, le principal scientifique de l'émission Curiosity. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de sa conférence de presse, il déclare que un autre responsable scientifique précise aussi que les instruments du robot, écoutez bien, c'est formidable, ne permettent pas de détecter la vie comme telle. C'est marrant, hein ?
Ouais.
Bon, donc il y a ça. Autre coïncidence, les événements météorologiques extraordinaires que nous vivons actuellement. D'ailleurs, une petite incise. Moi, je me pose la question de savoir, parce que c'est aussi mystérieux que les ovnis, à quoi sert Météo France et les alertes, puisque s'il n'y avait pas eu les annonces de Météo France, il y aurait eu la même pagaille qu'on a vue sur les routes. Pour moi, c'est un grand mystère. Ah, je passe à autre chose. bon, donc, le pape, la comète, la météo, la conférence de presse d'hier, la lune noire, c'est quand même une conjonction tout à fait étonnante. Même si je ne crois pas beaucoup aux signes, il faut admettre que les faits, comme on dit, sont têtus.
Ouais.
Hein. C'est assez bizarre.
C'est ce qu'on appelle de la synchronicité. On a fait tout à l'heure en début d'émission une spéciale sur la synchronicité. C'est, tous ces événements amènent justement, il y a port de l'eau au moulin, au docteur Bourdin.
Le pape, le fameux pape, qui était selon Malachi le dernier pape noir.
Ouais.
Ça, c'est Figaro, paraît-il, qui révèle ça.
Ouais.
Je ne le savais pas. Le pape qui vient d'être élu est issu de la... c'est la première fois d'ailleurs qu'il est issu de chez les jésuites.
Ouais.
Et le plus chez les jésuites, la plus haute sommité des jésuites s'appelle... donc c'est un pape, forcément, la plus haute sommité.
Mm-hmm.
Et c'est un pape noir. C'est curieux.
Oui. Alors...
Bon. Donc ça fait beaucoup de synchronicité, effectivement.
Ouais.
On va pouvoir passer à autre chose si
Oui, mais non, mais c'est intéressant de voir que beaucoup d'événements comme ça, planétaires et extraplanétaires, se synchronisent et on se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière. Alors, vous avez eu affaire aux objets volants non identifiés. Parce que je suis obligé de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous découvrent et qui disent, mais par exemple, c'est quoi l'ufologie ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je parle d'objets volants non identifiés. Vous, c'était dans les années 80 avec votre épouse.
Oui, alors, vous savez, on parle d'objets volants non identifiés, mais il serait préférable de dire, pour être vraiment très sérieux et honnête, phénomène aérien non identifié.
Oui, c'est vrai.
Des pannes. Parce que on ne sait pas ce que c'est.
Oui, c'est vrai.
Si aujourd'hui on sait faire des hologrammes, on a l'impression du réel, et en fait vous passez la main à travers un personnage, il n'est pas là.
Oui, c'est vrai.
Donc soyons prudents dans les mots que nous utilisons.
Mmh.
Alors effectivement, moi j'ai été témoin de plusieurs choses, et là c'était à Éragny sur moi, sur la région de Cergy et d'Éragny, de toute façon il s'est passé beaucoup de choses, mais je vous dis, il s'en passe partout beaucoup de choses, mais il se trouve que nous sommes trois ou quatre enquêteurs sur la région de Cergy-Pontoise, et nous étions, maintenant je suis un petit peu plus haut depuis que je suis en retraite, mais on reste toujours en contact.
Ouais.
Alors, donc... c'était en 88, c'était exactement le 6 octobre 1988. J'arrive en vue de bâtiment où réside ma future épouse, et je vois, il fait nuit, il est à peu près 21h30, le ciel est pas complètement étoilé, il y a des bancs de nuages espacés comme des altostratus. Je ne me souviens pas d'un clair de lune.
Mmh.
Et puis, je vois des galettes de lumière, des pastilles blanches, qui dansent sous les nuages, enfin qui les éclairent. Il y en a 7.
Ouais.
Mais alors, elles n'ont pas une rotation parfaitement circulaire. Il y en a qui semblent jouer... avec des mouvements un peu erratiques, en tournant les unes autour des autres, mais tout ça tourne en forme de conserve.
Mmh.
Et alors, à un moment donné, là, je suis complètement... Je me dis, c'est pas normal, il n'y a pas de faisceau lumineux.
Ouais.
Et puis, d'un seul coup, il y en a une qui s'arrête, et puis les autres qui viennent s'empiler dessus, les unes après les autres.
Ouais.
Alors là, et celle qui était arrêtée devient de plus en plus lumineuse, ce qui semble logique. Donc là, je monte dans l'appartement de mon ami qui était avec sa grande fille, qui était lycéenne à l'époque.
Ouais.
Et puis elle le regarde aussi. Nous regardons tous. Elle, au bout de quelques minutes, la pastille qui était immobilisée avec ses petites copines, elles sortent les unes après les autres et le manège recommence.
Ouais.
Alors là, j'en peux plus. Je vais dans la chambre à côté, je téléphone à la gendarmerie qui me dit « Oui, oui, il y a des gens qui nous téléphonent, etc. » J'essaie de téléphoner à mon beau-frère pour lui demander, qu'il habite à 600 mètres de là, s'il voit la même chose.
Ouais.
Je reste au téléphone et là, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Moi-même, je comprends pas ce qui s'est passé. Mon amie m'appelle, me dit « Viens voir, viens voir, viens voir. » Elle crie, sa fille aussi, et je ne bouge pas du téléphone.
Mmh.
Elle me dit « C'est incroyable ce qui se passe. » Je ne bouge pas du téléphone. Voilà. Et puis au bout de 2-3 minutes de téléphone désespéré qui n'aboutissent, de coup de téléphone désespéré qui n'aboutissent pas,
ouais.
Je raccroche le téléphone,
ouais.
Je vais les voir, et le phénomène qu'elles ont vu est terminé. Le balai aérien que j'ai vu continue.
Ouais.
Comme avant, mais elles, qu'est-ce qu'elles ont vu? Alors, c'est incroyable.
Qu'est-ce qu'elles ont vu?
Elles ont vu ces galettes de lumière descendre le long de l'immeuble d'en face, prendre la forme d'un ballon de rugby et se diriger vers leur balcon, passer à un mètre du balcon entre un arbre et le balcon obscurcissant l'arbre, des espèces de ballons qui ont, je sais pas moi, 50-60 cm de haut, des ballons de lumière qui passent comme ça doucement, qui arrivent très rapidement, qui passent doucement devant le balcon, et il y en a une des deux, je me souviens plus laquelle, qui dit d'ailleurs, tends la main, et l'autre qui dit, non, j'ai peur de me faire enlever. Et le ballon lumineux remonte, et redevient une pastille qui tourne avec les autres. Et les unes après les autres, ces pastilles de lumière descendent le long de l'immeuble, d'en face, suivant exactement la même trajectoire, passant lentement devant le balcon et remontant. Et cela pendant toute la durée de ma communication téléphonique. Et lorsque, de rage, je dirais, mais je comprends pas pourquoi je suis pas venu quand tu m'as appelé, elle me dira, en me regardant bizarrement, c'est parce que toi tu sais. Et elle se souvient pas de ça. Ça, c'est très curieux. Et j'ai vu une dame, alors que le balai n'avait pas commencé, ce balai de lumière, que vous trouverez sur Internet en tapant mon nom. Il y a tout le dossier avec les images. Sur la recherche Google, vous tapez mon nom, Gérard Deforge, et vous trouverez donc ce documentaire. Je crois qu'il y est encore. J'ai entendu une dame qui passait, parce qu'il faisait assez bon, qui passait avec sa fille sur un chemin en bas du balcon, et qui lève la tête et qui dit à sa fille, tiens, ce soir, ça je m'en souviens très bien, il y a encore des projecteurs.
Ouais.
Effectivement, dans les jours qui ont précédé, j'avais déjà vu ce genre de lumière, mais sans trop y attacher d'importance.
Ouais.
Et là, c'était vraiment quelque chose d'époustouflant. Je me suis refermé dans ma coquille, comme on dit, et un an après, j'ai un ami enquêteur à qui j'en ai parlé, qui a repris l'affaire à zéro. Il est venu dans l'appartement, on a tout remis à plat, et c'est lui qui a fait
l'enquête.
Ils ont le compte-rendu qu'on peut voir sur Internet.
Alors,
donc,
parce que
c'est vraiment quelque chose de très très fort.
Gérard, ce qui est assez important et étonnant dans ce phénomène, mais qui revient assez souvent, parce que quand on parle d'objets volants non identifiés ou de phénomènes aériens non identifiés, on a surtout deux sortes de choses. Souvent, c'est soit les gens voient un vaisseau, soit des gens voient des lumières.
Oui.
C'est ça qui est dingue. Donc,
parfois, ils voient aussi un vaisseau avec des lumières.
Oui, et là, dans ce que vous avez vu, d'abord, c'est ce couple-là qui s'empilaient les unes au-dessus des autres. C'était, d'après vous, un vaisseau, et d'où étaient extraits ces lumières, c'est ça?
Tout était lumière, tout à fait. Il n'y avait pas de... Il ne semblait pas qu'il y ait un quelconque objet attaché à ces lumières, tout à fait.
Alors, on va marquer une pause musicale, Gérard Deforge, on se retrouve dans un instant. On va parler juste après de cette radio belge dans laquelle vous avez été interviewé. Vous verrez qu'il s'en passe des choses chez nos amis belges. Je salue d'ailleurs tous les Belges qui nous écoutent via le player qui est mis à votre disposition sur le Facebook. Bob, vous dites toute la vérité. Ou encore sur le site d'Allo, d'ailleurs, ça réagit pas mal.
Et oui, on a une question notamment pour savoir si Gérard est partisan de la thèse Tôt les boulons pour les ovnis.
Eh ben, on en parlera dans un instant. restez donc là. Mon nom est Bob et je vous dis tous les soirs entre 21h et minuit sur Ado toute la vérité.
Et là, on va écouter un de nos coups de cœur dans l'équipe de Bob vous dit toute la vérité, un mélange de pop, de rock et de nouveau son R&B. C'est Bruno Mars avec Locked Out of Heaven sur Ado. Et dans Bob vous dit toute la vérité.
Tous les soirs sur Ado, tout ce que l'on nous cache depuis toujours.
Bob vous dit toute la vérité.
Oui, et parlez-en autour de vous. Dites-leur qu'il existe quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et nous vivons également parfois, ici même, sur Ado, des expériences en direct. Et il y a à peu près 3 semaines, nous avions reçu un imam exorciste, Ben Alima, qui avait, par l'intermédiaire d'un capteur, fait venir ce qu'on appelle des djinns, que tous les musulmans connaissent bien. Ce sont leurs, dans la religion musulmane, leurs démons. Oui. Leur génie, entités, en tout cas, leurs entités. Et demain matin, on mettra la vidéo de ce que nous avions vécu en direct, ici même, dans ce studio, juste à côté de moi. Écoutez juste un petit extrait. L'idée, en fait, c'était, parce qu'il semblerait que les esprits soient partout, et Ben Alima avait demandé ce qu'il y avait dans ma maison. Écoutez un petit extrait.
Bonsoir.
Oui.
Vous venez de la maison de Bob?
Voilà, pour en savoir plus, il faudra regarder demain, on postera la vidéo.
Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit,
répondez à dos.
Et Bob vous dit toute la vérité.
L'une des choses qui vous passionne le plus, je le sais, hein, parce qu'on avait posté un sondage la semaine dernière, durant le week-end, vous avez été nombreux à y répondre. Et ce qui arrivait en premier, c'était bien sûr les objets volants non identifiés. On a mis une petite liste de thèmes et ça vous passionne. Et c'est pour ça que j'ai encore avec moi ce soir Gérard Desforges, investigateur dans le domaine des enquêtes ufologiques. Alors Gérard, on va aborder, enfin essayer de vous écouter concernant cette radio belge qui vous avait interviewé. Que s'était-il passé?
Ouais, si vous permettez, Bob, il y a 3 sujets que j'aimerais développer. Je ne sais pas si on aura le temps. Il y a celui-là, c'est une anecdote quand même qui est très, très intéressante.
Ouais.
Il y a le problème des paralysies du sommeil, puisque entre rêve et réalité, et puis puisque vous avez parlé d'entité, c'est une concrétisation de ce que vous venez de dire au sujet de cette vidéo, au sujet d'un institut de recherche très très important, des choses qui viennent de paraître, et aussi je voudrais qu'on parle des abductés.
Oui, alors on en parle.
On va commencer par l'histoire de Petit Rochin, si vous le voulez bien.
Oui, alors ça c'est en Belgique.
Alors, il y a quelque temps, j'ai donc été interviewé par une radio belge qui me proposait aussi 3 quarts d'heure, 1 heure d'entretien sur cette question.
Ouais.
Et d'emblée, j'étais très très heureux de pouvoir communiquer parce que je leur ai posé la question de Petit Rochin. Alors, je rappelle, Petit Rochin, c'est en Belgique et ça se passe le 5 novembre 1990 où il y a eu une flopée de, disons, d'engins qui ont été vus un peu partout. Alors, je ne sais pas si c'était le 5 novembre, c'est en tout cas en novembre, mais le 5 novembre 90, partout en France, il y a eu des centaines d'objets, etc. Et là, il y a une photo qui paraît dans toute la presse, dans la presse belge et après dans la presse mondiale, même dans Paris Match. On voit un énorme triangle avec de magnifiques lumières aux trois angles et au centre, avec manifestement une masse triangulaire entre ces lumières. Une photo absolument magnifique. Cette photo va être analysée par les instituts scientifiques du monde entier.
Ouais.
Et les personnes, des physiciens, des gens très très pointus, même au niveau de la NASA, vont dire oui, cette photo nous interpelle, on ne sait pas ce que c'est. Il y a quelque temps, il y a un jeune homme, enfin il est un petit peu moins jeune qu'à l'époque, qui dit, non, c'est un canular. J'ai fait ça avec du polystyrène, etc. Il explique comment il a fait.
Ouais.
C'est un énorme canular et il explique, vous voyez, avec un rien, on peut tromper le monde.
C'est ça.
Ok. Ouais. Alors je dis à cette radio belge, je dis, moi je veux bien croire cette personne. Mais ce que je je ne comprends pas, c'est que vous, qui vous intéressez, vous, la radio belge, qui vous intéressez à tous ces phénomènes, et puis je sais qu'il y a aussi la SODEP, parce qu'il y a, une société crédible, des sociétés crédibles en Belgique qui s'occupent des ovnis, de recueillir des enquêtes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à ce jeune, à cette personne, de refaire sa manip devant des spécialistes, devant des scientifiques, dans les conditions et avec les matériaux initiaux qui ont présidé à son canular. Personne, absolument personne, lui a demandé de faire cette manip, qui est la seule, à mon avis, capable de répondre à cette question. Est-ce que c'est une...
De démontrer le canular, en fait, c'est ça.
Parce que, je regrette, c'est pas tout de dire c'est un canular, encore faut-il pouvoir le prouver, et là on a les moyens de le prouver, puisque c'est fait avec du balsa, avec des choses très très simples, des matériaux qu'on peut trouver chez l'épicier, chez le quincailler du coin. Comment se fait-il qu'on lui a pas demandé de réitérer son expérience? Personne ne l'a fait. Alors je dis que là, pour moi, c'est du foutage de gueule un peu. Je ne crois pas à cette histoire. On a balbutié quelques mots, on m'a raccroché au nez, ce qui pour moi était une preuve supplémentaire de ce que j'avançais.
Alors, ça veut dire encore une fois que l'annonce du canular était un leurre pour vous?
Ah oui, absolument.
D'accord.
Ah oui. Bah, jusqu'à temps qu'on nous prouve qu'il y a une expérience qui a été refaite et qui donne le même résultat avec les matériaux indiqués par cette personne.
Mais ça voudrait dire que la radio en belge dont vous avez parlé était à la solde d'une certaine, un certain establishment, d'une certaine forme de pensée.
Moi, je vous ai raconté ce qui m'est arrivé.
Bien sûr.
Maintenant, chacun l'interprète comme il veut.
Ouais, je l'ai interprété. Voilà. Bon, Gérard, on va parler des abductés, justement, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui.
Et on en parle souvent ici. Alors, vous restez avec nous, en tout cas, si vous arrivez.
Bon, vous dites toute la vérité.
Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil.
Alors là encore, j'essaie de le vocabulaire ufologue ou spécialiste d'OVNI, j'essaie de le traduire. Les abductés, c'est juste des personnes qui ont été ou qui auraient été enlevées par des extraterrestres, c'est ça?
Bah, disons qu'ils ont été enlevés par des êtres qui n'ont pas l'allure d'humains.
C'est cela. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, chez les abductés?
Alors, écoutez, il y a un certain nombre d'invariants chez les abductés.
Ouais.
D'abord, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, ils se plaignent ou ils disent qu'ils ont des implants.
Ouais.
Souvent, ils sont capables, après cette expérience, de perception extrasensorielle très développée.
Alors, à propos des implants, c'est pas des conneries, parce qu'il y a le docteur Lear, quand même, aux États-Unis, qui a fait pas mal d'expériences sur ces abductés, et qui, effectivement, a pu se rendre compte que ces implants existaient. Hein. On dit pas ça...
Si je vous en parle, c'est parce que, souvent, ils ont, un ange gardien, entre guillemets, depuis leur enfance, et parfois... ils s'en aperçoivent très rapidement, très tardivement, excusez-moi. Par exemple, nous venons de rencontrer ces derniers jours, et c'est Myriam, que vous connaissez bien, qui a pris en charge cette personne, c'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi.
On l'a reçue la semaine dernière, Myriam, elle est venue.
On a communiqué ce soir, vous pouvez la rappeler, je vous confirme certaines choses si vous voulez. Une dame, donc, qui a connu depuis sa naissance une kyrielle d'événements très insolites, et elle elle a une cinquantaine d'années, je crois entre 40 et 50 ans, peu importe, et elle s'est aperçue seulement il y a 6 mois que tous les événements qu'elle a vécu et qui lui paraissaient quand même absurdes, invraisemblables, en fait étaient liés et étaient dus probablement une abduction qu'elle a connue dans son enfance.
Ouais, et en plus qu'elle avait identifié en faisant une séance de régression avec Daniel Goldschmidt, un hypnothérapeute. Hein.
Alors, ça c'est Myriam dont vous parlez, mais la personne disons qu'elle vient seulement de découvrir ce lien et elle souhaite, je crois, en savoir plus.
D'accord.
Sur elle-même.
D'accord.
Donc, ces personnes, elles ont envie de s'exprimer.
Ouais.
Et elles essayent de comprendre vraiment ce qui leur est arrivé. C'est difficile pour elles de s'exprimer dans le milieu familial.
Ouais, en même temps, ça se comprend, Gérard. Gérard, c'est complètement fou. Il vous arrive un truc pareil,
ouais.
On n'ose pas en parler.
Les amis, on les perd si on leur en parle.
C'est ça.
Alors ces abductés, je rends ici... hommage à mon ami Jean-Claude Venturini, co-responsable du livre de notre ami Georges Mann sur OVNI en France, parce qu'il a fait une étude qui nous intéresse, qui est très très originale.
Ouais.
Il a fait une étude approfondie, alors on n'a pas encore demandé à cette dame, on est seulement au début de l'exploration, de l'échange. Parce que, en fait, ce que nous désirons, c'est échanger avec des gens et qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce genre de choses.
Mmh. Hein.
Et donc Jean-Claude Venturini s'est aperçu que les gens qui sont implantés, souvent, et il a fait des recherches, on a trouvé des textes anciens, on a parlé des samouraïs japonais, etc., donc des élites. Hein. Mmh. Ces gens ont une consommation de sel très supérieure à la normale, admise par les nutritionnistes. Et pourtant, ces personnes ne développent aucune pathologie liée à cette surconsommation tout à fait affolante. Parce que c'est vraiment significatif la différence entre une personne qui mange du sel, disons, normalement, et puis celle-là. Alors, cette étude fait apparaître qu'en fait, donc, cette surconsommation de sel n'est pas destinée au fonctionnement organique de la personne, mais exclusivement est au service, cette surconsommation, de ces implants, que nous appelons des symbiotes. Donc, moi je lance un appel. Si parmi les auditeurs, vos auditeurs, s'il en est qui se reconnaissent dans cette catégorie, à savoir de consommer beaucoup de sel sans que cela nuise absolument à leur santé, ben j'aimerais bien qu'ils prennent contact avec nous. Ils peuvent le faire chaque premier mardi du mois à la cafétéria Casino de la Défense où se déroulent nos réunions de Paris OVNI.
Alors moi je vais vous paraître
quelque chose qui est pensé, parce que attention, ça concerne quand même beaucoup de gens. Hein.
Alors moi, Gérard, je vous arrête deux secondes, mais je vais venir à votre repas écologique parce que depuis une dizaine d'années, je consomme du sel, mais à outrance. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les gens qui sont autour de moi me disent, mais c'est hallucinant ce que tu mets comme sel. Moi, il faut que tous les aliments sentent le sel. Visiblement, j'ai fait des check-up et j'ai rien, mais en même temps, je n'ai aucun souvenir d'une certaine, dans l'enlèvement et d'une abduction. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous n'en savez rien? Pour aller voir Daniel Goldschmidt?
Oui, peut-être, mais c'est hallucinant ce que vous me dites, parce que effectivement, je mange, mais j'ai une surconsommation de sel, donc c'est hallucinant. Donc, ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, mais bon, là, vous me mettez la puce à l'oreille, vous voyez ce que je veux dire.
Le fait que vous fassiez des émissions aussi courageuses et aussi ciblées, ça peut être aussi un indice que, dans cette affaire, vous avez un rôle particulier au niveau de la divulgation.
Incroyable. Bah écoutez, en tout cas, je verrai avec Daniel si je peux pas faire une séance de régression pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, parce que là, vous me mettez quand même sérieusement le doute concernant le sel. J'avais jamais entendu ça, mais alors là, vu ce que je consomme, je me pose des questions.
Alors, au niveau des adultes, il y a énormément de choses à dire, évidemment.
Bien sûr.
Ce soir, je voulais, si vous me l'avez permis, je vous en remercie, d'insister sur ce point particulier qui est une découverte récente, le fruit d'un travail vraiment sérieux et qui est effectivement assez original.
Ah ouais, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est un travail qui a été mis en lumière par qui? Est-ce que qui s'est rendu compte de ça?
Eh bien, je ne sais pas exactement comment ça a démarré, mais c'est, vous savez qu'on a signé à trois, Georges Demain, Jean-Claude Venturini et moi-même, le livre OVNI en France, parce que nous sommes en synergie tous les trois pour beaucoup de nos enquêtes.
Ouais.
Et Jean-Claude, en étudiant particulièrement le cas Roro,
ouais.
qui est de ce point de vue-là tout à fait exemplaire, a dit mais je vais aller voir plus loin, parce que lui, Jean-Claude, c'est un scientifique, hein, il est physicien, il est. Je veux dire, quand il observe comme quelque chose comme ça, tout de suite il creuse, et disons d'une manière extrêmement méthodique, et il est arrivé à des conclusions qu'il a formalisées dans un texte qu'il nous a transmis, et qui est tout à fait remarquable. C'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage, et en plus à faire connaître ces conclusions qui nous semblent assez solides. Et bon, ce que vous dites va un peu dans le sens, mais je vous assure que nous avons été surpris par les trouvailles que ces recherches ont fait apparaître.
Mais en même temps, c'est toutes ces recherches qui vont faire avancer ce public, hein, qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus sur les gens qui ont été enlevés ou qui disent avoir été enlevés, parce que plus on aura de similitudes dans les propos et dans les témoignages, plus on commencera à découvrir la vérité, la vraie vérité.
C'est comme ça qu'il faut avancer. On marche très difficilement, mais il faut avancer, et puis on continue les recherches. On aboutira. Si on avait abouti, vous ne feriez pas cette émission.
Bien sûr. C'est ce que je dis toujours.
Mais bon, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'on parle très peu de tout cela dans nos grands médias. Il y a des bonnes émissions, mais pour l'instant, c'est la 6 et W9 ont fait quelques bonnes émissions. La 6, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Stéphane Alix, hein, et qui va continuer, je crois, ses émissions. C'est à des heures impossibles, souvent. Les très bonnes émissions sur les TV institutionnelles, faut attendre minuit, 1h du matin. Hein.
Mais c'est pour ça que, Gérard, je suis en train d'adapter l'émission à la télévision, et ce sera sur une chaîne qui sera de reportage et de documentaire, qui vous permettra de regarder cette émission à des heures pas tardives. Vous voyez ce que je veux dire, des heures
Vous dites donc, ça sera une originalité exceptionnelle.
De grande écoute, et on a de la chance, parce que le directeur de la chaîne est un passionné de paranormal et d'OVNI. Donc, vous serez.
Ce qu'il y a, c'est que moi, votre émission, tout ce que j'entends est vraiment en sérieux. C'est bien, quoi, parce que c'est. Et puis alors, vous managez ça de manière remarquable. On est tout notre groupe là. On est en lien, une vingtaine de personnes en liaison, et on est très contents de ce que vous faites.
C'est très gentil. Alors, on va évoquer bien sûr autre chose avant de finir avec la paralysie du sommeil, parce qu'on finira avec ça. J'aimerais qu'on évoque les hommes en noir, ces fameux Men in Black.
Ouais.
Parce que là aussi, vous avez conduit une enquête sur ces Men in Black.
Alors là, comme on va avoir peu de temps pour en parler, je vous dis tout de suite que l'enquête est complètement développée.
Ouais.
Dans le livre de mon ami, je suis désolé, hein.
Non, mais c'est pas grave.
Je sais pas si on peut le trouver encore. Joël Ménard, le directeur de la revue qu'on ne peut obtenir que par correspondance LDLN,
ouais.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle Men in Black,
ouais.
L'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis, c'est au Mercure Dauphinois.
Ouais.
Voilà, et à la page, il y a 50 cas, je crois, qui ont été analysés de manière extraordinaire. Celui que j'ai développé est à la page 146, c'est le 40e cas, je crois. Il se développe sur plusieurs pages. Donc, Men in Black, par Joël Ménard, aux éditions Le Mercure Dauphinois. Alors, grosso modo, voilà de quoi il s'agit. Parce que je suis obligé de résumer, hein.
Ouais.
J'ai un ami chez qui on allait boire l'apéro de temps en temps, et on avait jamais parlé de ça. C'était pas du tout dans ses centres d'intérêt, à mon avis. Puis je regarde sa bibliothèque, et puis je vois qu'il avait pas mal de bouquins sur la question. Je lui dis, tiens, tu t'intéresses à ça? Ah, il dit, oui. Ah, il dit, au fait, est-ce que t'as déjà entendu parler des hommes en noir? Je dis non. Je dis oui. Je connais les hommes en noir, mais j'ai jamais investigué sur cette question. J'ai jamais eu de cas qui s'est présenté à moi. C'est tout. Dis-moi, j'ai un problème. Ah bon. Et là, il me parle de son papa, qui habite dans la région de Tours, et qui, depuis plusieurs années, à date régulière, a affaire à des hommes en noir.
Ouais.
Ah. Alors je lui dis, écoute, dimanche prochain, ou dimanche en 15, on prend la voiture, puis on va voir ton père.
Ouais.
Et donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai investigué, et donc là j'ai appris quelque chose qui m'a assez sidéré, d'autant plus qu'il y a des petits-enfants qui sont concernés.
Ouais.
Il y a sa femme avec laquelle il ne vivait plus à ce moment-là.
Ouais.
Et que j'ai pu interroger les enfants, pas le plus jeune, parce que ça c'est par déontologie, si vous voulez.
Ouais.
J'ai interrogé que les plus grands.
Ouais.
J'ai interrogé la maman par téléphone.
Mm-hmm.
Tous m'ont confirmé ce que le papa m'avait expliqué. Alors, grosso modo, ben voilà, ceux qui connaissent l'affaire des hommes en noir, c'est classique. À date fixe, là c'était à date fixe.
Ouais.
Une grosse berline américaine noire,
ouais,
se présente, on l'entend pas.
Ouais.
Des hommes en noir se descendent,
ouais,
et posent des questions apparemment incohérentes. Ils semblent tout connaître de la vie des gens.
Ouais.
Ils sont grands. Ils ont une démarche un peu mécanique.
Ouais.
Ils ont les lèvres peintes.
Ah.
Ils ont le teint blafard.
Mmh.
Et ils ont une voix un peu robotique.
D'accord. Donc assez neutre, sans intention, c'est ça?
Absolument. Et la question... le chien a manifesté une nervosité...
pas commune. Ouais,
alors, il y a une chose qui est assez étrange,
mmh,
c'est que les enfants et le chien ont été appelés par leur nom, alors que c'est...
c'était pas possible, quoi. Ouais, on ne pouvait pas les connaître.
Oui, oui. C'est une maison qui est située en pleine campagne. Je crois qu'il y a 3 ou 4 maisons, c'est un hameau, mmh, complètement perdu dans la campagne.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il pose comme question? Alors, le père me dit, il y a 5 ou 6 ans, c'était en été, il faisait vraiment très beau. Alors, d'ailleurs, il fait toujours très beau quand ils viennent,
ouais,
me dit le père.
Ouais.
Hein? Alors, il y avait chez moi mes 3 petits-enfants, devant le corps de la maison, ça c'est lui qui lit, hein.
Ouais.
Il y a un portail en bois à double battant, à gauche du portail se trouve une haie qui était un peu moins fournie à l'époque.
Mmh.
Il y a un interstice dans la clôture extérieure qui permet de voir la route,
mmh,
rectiligne en cette zone.
Mmh.
Les enfants jouaient dans la haie quand ils furent tout à coup appelés par leur nom par des personnes se trouvant dans la rue. Donc, les enfants eurent peur et vinrent me prévenir. Je calmais le chien, j'ouvris le portail d'entrée, sortis, refermant celui-ci derrière moi, laissant mon berger allemand très nerveux avec les enfants. Je me suis retrouvé en face de 2 hommes habillés tout en noir, avec un costume impeccable. Ils me firent penser à des employés des pompes funèbres, cherchant la maison et la famille d'une personne décédée. Ils étaient tous les deux d'aspect parfaitement identique, comme des clones. Ils étaient très grands, 2 mètres environ. Je fus surpris par plusieurs choses. Tout d'abord, leur visage, qui était d'un teint cadavérique, blanc, avec des zones bleutées. Les cheveux étaient noirs aussi, ainsi que les yeux, extrêmement perçants. Les sourcils étaient dessinés, ainsi que les lèvres rouges, mais le tout maladroitement. Quand ils s'exprimèrent, il me sembla que la voix au ton monocorde, une voix sans timbre,
ouais,
c'est ces mots réels, hein,
ouais, ouais,
venait de la poitrine et non pas de la gorge. Cette voix avait néanmoins des intonations douces,
mmh,
elle semblait vouloir mettre en confiance.
D'accord.
Ils m'appelèrent aussi directement par mon nom,
mmh,
et après m'avoir salué, ils étaient d'une grande politesse,
mmh,
ils me rappelèrent tout de go que cela ne fait pas longtemps que vous habitez ici, ce qui était la vérité.
Mmh.
Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans votre maison ou autour de vous? Bah non, tout va bien. Et alors qu'ils commençaient ainsi à me parler, j'ai remarqué en face de mon portail, voir le il y a un document, une grosse berline d'aspect américain noire avec conduite à gauche.
Ouais.
Les fenêtres étaient teintées, néanmoins, par les vitres à demi baissées, je pus voir un 3e homme assis à l'arrière dans la voiture, ainsi qu'un chauffeur, qui regardait dans ma direction. Les questions continuèrent. Moi, qui êtes-vous? Ne vous inquiétez pas, on ne vous veut pas de mal. Eux, êtes-vous en bonne santé? N'y a-t-il pas eu d'épidémie ici pendant l'hiver? Alors, je dois faire ici une petite remarque. Tout ça, c'était quand même à l'époque de la vache folle.
Ouais, ouais.
Donc, c'est très, très curieux.
Mais alors, vous, alors, ces enquêtes, elles vous ont emmené à quelle conclusion?
Ben, disons que là, j'ai fait déposer les enfants. Les enfants m'ont dessiné la tête d'un de ces hommes avec un chapeau teton caractéristique. Donc toutes ces déclarations sont concordantes. Et si vous lisez le livre de Ménard, vous verrez que toutes les histoires sont plus accablantes. Bon, je ne dirais plus.
Abracadabrantesque.
Oui, merci. Les unes que les autres. Ouais. Et on ne sait rien de cela. Ouais. Je sais que Joël Ménard, lui-même, le directeur de la revue LDLN, ouais, a eu une fois, alors qu'il était sur le plan de déménager, sur le point de déménager, il a vu dans sa maison, au niveau d'un balcon, des hommes en noir. Ouais.
Mais on peut imaginer, vous,
Gérard,
vous, dans la communauté ufologique, parmi vos amis, vous pensez quoi? Que ce sont des gens qui sont du gouvernement, qui empêcheraient les gens qui s'intéressent au phénomène ovni de parler, ou pas qu'au phénomène ovni, puisque vous me parliez tout à l'heure de la vache folle, peut-être aux gens qui s'intéressent à autre chose que ce qu'on nous met devant les yeux, de parler, ou est-ce que ce seraient des gens venus d'ailleurs et d'une autre planète?
Écoutez, dans ce cas précis que j'ai investigué, ouais, il y a aussi, ouais, ensuite, ouais, des manifestations, je dirais, paranormales au niveau du principal témoin, ce monsieur dont je vous ai parlé, ouais, qui va s'apercevoir de certaines propriétés concernant son entourage.
Ouais.
Par exemple, son lit va à moitié brûler.
Ah oui.
Il va y avoir dans sa chambre une température par moment absolument insupportable.
Ouais.
Et ce qui va laisser des traces noires sur le lit, sur le bois de lit, je les ai vues.
Ouais.
Ses enfants vont voir des ovnis. Lui-même va voir un espèce d'ovni en forme de sapin de Noël un peu plus tard. Donc, on est encore là dans des manifestations. Vous savez, quand on parle d'OVNI, je parle de phénomène, parce que il y a une multitude, souvent, de phénomènes paranormaux qui concernent les personnes témoins, les grands témoins, parce qu'il y a les témoins et les grands témoins, ceux qui sont vraiment visiblement ciblés par le phénomène, et des phénomènes paranormaux qui les concernent, qu'ils développent ou qui se développent dans leur entourage. Alors là, vous savez, c'est la bouteille à l'encre. Et je suis pas un scientifique, mais les scientifiques que je connais sont d'une prudence tellement prudent que d'ailleurs il n'y a pas d'études, et puis en plus il n'y a pas d'études officielles.
Ouais, souvent ils sont tellement prudents que ça ne fait pas avancer la science. Hein, donc,
on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. On ne le sait pas.
On ne sait pas. Alors Gérard, on va être obligé malheureusement de se quitter. Si brièvement vous pouvez nous faire un petit point sur la paralysie du sommeil, ou alors on prend un autre rendez-vous, c'est comme vous le souhaitez, Gérard.
La paralysie du sommeil, écoutez, c'est extrêmement important et intéressant. Je vous renvoie au site internet de l'INRES.
Ouais.
Vous connaissez l'INRES ?
Oui, bien sûr, oui. Ouais.
L'Institut d'études des phénomènes inexpliqués,
ouais,
que dirige Stéphane Alix. Alors là-dedans, il y a des psychiatres, il y a le comité d'honneur, il y a quand même un astronaute,
ouais, ouais,
il y a un neurologue, enfin, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi.
Ouais, c'est fait sérieusement.
Et il y a un article qui vient de paraître sur ces phénomènes.
Ouais.
Je vous dirais simplement que la conclusion, c'est que les paralysies du sommeil, ça concerne quand même, en France, 30 à 40% des gens, c'est-à-dire au moins 30 millions de personnes. Donc c'est un sujet qui n'est pas n'importe quoi. Et ces personnes, donc, en une minute, d'un seul coup, se trouvent comme paralysées. Elles reçoivent comme un coup sur la poitrine. Elles sont oppressées. Et elles ont l'impression d'être en présence d'entités.
Ouais.
Et la conclusion de l'article est que cette présence d'entités,
ouais,
n'est pas forcément quelque chose
de fantôme
irréel.
Voilà, et ça pourrait être...
Les personnes qui sont dans cet état-là se trouvent peut-être momentanément dans d'autres plans de fréquence,
ouais, c'est ça,
qui leur permettent d'être en communication effectivement avec des entités comme cet imam vous l'a expliqué,
ouais,
car c'est un fait. phénomène absolument général. Mmh. On les appelle des djinns en Afrique, des elfes, disons, dans le nord de l'Europe. Ouais. Et en Bretagne, les légendes à ce sujet sont légion.
Ouais.
Mais en fait, il semble bien qu'il y ait une forme de réalité là-dessous.
Ouais.
Alors cet article est assez développé, je ne peux pas en parler maintenant,
ouais.
mais c'est à lire donc probablement dans le dernier numéro de l'INRES, c'est Jean-Claude Venturini qui nous a communiqué tout
D'accord.
à l'heure.
Bon.
Et c'est très intéressant parce que là, ce sont des scientifiques
ouais.
qui disent, oui, il y a peut-être, écoutez, j'essaie de retrouver la dernière phrase, voilà, page 7, page 6.
Non, mais on voit bien de toute façon voilà, que cette paralysie du sommeil, elle est fréquente puisque beaucoup de gens, en plus, nous en parlent.
Ah oui, oui. Au moins, je vous dis, d'après les statistiques,
ouais.
30 à 40 millions de personnes
ouais.
sont, disons, sont concernées. Alors, il y a des conseils, justement.
Ouais.
Quand on se lève, boire un verre d'eau, de pas se coucher sur le dos.
Ouais.
Car les trois quarts des paralysies du sommeil surviennent quand on dort dans cette position.
Ouais.
Aussi, les paralysies du sommeil doivent inviter à repenser son mode de vie.
Ouais.
Excite les drogues, l'alcool et les excitants, excite les pics de stress,
ouais.
les nuits trop courtes, les retards du sommeil accumulés. Etc. Enfin, il y a plein de conseils
De toute façon, on lira l'article parce que j'imagine qu'on y reviendra peut-être même sur cette paralysie du sommeil parce que.
C'est vraiment très très intéressant.
C'est quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, Gérard Desforges, j'aimerais vous remercier parce qu'il est minuit 6. Je vais vous laisser tranquillement vous reposer. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Passez le bonjour à tous vos amis ufologues qui suivent avec attention cette émission. Et puis à très bientôt, j'espère.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse.
Contactez-nous sur ado.fm.fr ou la page Facebook Ado.
Merci.